Donc, Raphaël, c'est ce soir le dernier débat entre les candidats démocrates à la présidence.
Ça va avoir été très, très long, ce qu'on pourrait appeler le stade de pré-campagne. Écoute, ça fait à peu près un an que les premiers candidats qui sont lancés dans la course font campagne. Eh bien, tout ça, ça va commencer vraiment de façon formelle, le grand bal des primaires démocrates le 3 février prochain. Fait que si tu fais le calcul, on est à 20 jours, moins de 3 semaines, et ce soir, c'est le dernier débat. On se parle d'un très long processus. Tu te rappelleras comme moi que l'an passé, les premiers débats, on avait 20 personnes, 20 candidats. C'était tellement nombreux ce qu'on avait comme line-up qu'on fallait faire ça en fait sur deux soirs. C'était deux débats de 10 personnes. Là, ce soir, un seul débat, 6 candidats seulement. Et sur les 6, disons-le franchement, il y en a un qui n'a absolument aucune chance réelle d'émerger plus tard. Donc, on en a 5 qu'on va suivre. Et dans ces 5-là, il y en a 2 qui, depuis les derniers jours, retiennent beaucoup d'attention, pas nécessairement pour les bonnes raisons. Bernie Sanders et Elizabeth Warren. On le sait, ce sont les deux candidats qui sont associés à l'aile, je dirais, plus à gauche du Parti démocrate. Et ce sont, tout au moins, ils se présentent tous les deux comme de très vieux amis, de grands amis. Deux personnes qui avaient une espèce de pacte de non-agression, pacte mutuel de non-agression, mais qui, là, ont commencé à jeter des gants parce qu'on est proche du fil de départ formel. Et ça a pris une tournure assez vicieuse depuis le début de la semaine.
Ah
parce
oui?
Que, oui, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une rencontre privée qui a eu lieu il y a à peu près 2 ans entre Bernie Sanders et Elizabeth Warren qui a coulé dans les médias cette semaine, dans laquelle Bernie Sanders aurait dit, c'est ce qu'on l'accuse d'avoir dit, qu'une femme ne pouvait pas gagner la Maison-Blanche. Évidemment, Elizabeth Warren est une femme, c'est une sénatrice du Massachusetts. Et on le rappelle, pour la petite histoire, ça arrive dans un contexte où beaucoup de partisans démocrates d'Hillary Clinton, Mme Clinton la première, ont toujours pas digéré le rôle qu'avait joué Bernie Sanders dans les primaires démocrates il y a 4 ans. Dans ses mémoires, Hillary Clinton est assez explicite, en fait, en accusant Bernie Sanders de lui avoir coûté la Maison-Blanche. Donc, tu mets tout ça ensemble. Elle dit ça dans son livre. Elle dit pas « Bernie Sanders m'a coûté la Maison-Blanche », mais elle dit très clairement que les attaques de Bernie Sanders pendant les primaires avaient facilité le travail de Donald Trump dans l'élection générale.
Il faut dire, Raphaël, que Bernie Sanders a talonné Mme Clinton jusqu'à très, très tard dans le calendrier. Ça, je sais que ça n'a pas plu à l'équipe de Mme Clinton, mais est-ce que le fait que M. Sanders, il y a 4 ans, a été si longtemps, disons, dans le concours électoral démocrate, ça ne dit pas quelque chose sur la candidature de Mme Clinton?
Absolument.
À l'époque?
J'étais le premier à le dire quand je faisais des entrevues il y a 4 ans. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est les électeurs démocrates qui pourraient être frustrés d'entendre encore ce genre d'allégations-là autour de Bernie Sanders, que ces accusations-là soient fondées ou non. Et ce qui est également intéressant, c'est la réponse d'Elizabeth Warren à tout ça. Donc, elle est sortie publiquement au courant des dernières heures et je te cite sa réponse. Elle a dit qu'elle avait eu une rencontre avec Bernie Sanders dans laquelle ils avaient discuté de ce qui arriverait si les démocrates choisissaient une femme comme candidate présidentielle. Mme Warren dit « Je croyais qu'une femme pourrait gagner. Il était en désaccord. » Donc, écoute, ça met la table, disons, pour ce soir. On parle encore une fois de deux candidats qui ne s'attaquent pas mutuellement et dont les électorats, qui partagent en bonne partie le même électorat. Et pourquoi est-ce que c'est important? Bien, c'est important parce que si les deux continuent à s'attaquer et à se contre-attaquer comme ça, il y a deux personnes qui en sortent gagnantes. La première, à court terme, c'est Joe Biden. Je te le dis depuis des mois, ce type-là a une bonne chance de gagner, de se faufiler si le vote plus à gauche continue à être divisé de façon aussi âpre, aussi aiguë entre Warren et Sanders. Donc ça va être le premier gagnant à court terme. À plus long terme, évidemment, l'autre gagnant, ça pourrait être potentiellement Donald Trump. Parce que là, on a de la bisbille dans le camp démocrate. On va dire que c'est normal dans un contexte de primaire, c'est sûr. Sauf que ça prend une tournure qui est peut-être plus négative que ce qu'on avait il y a à peine quelques jours.
Et prends 30 secondes pour nous expliquer là, l'importance du test électoral qui s'en vient dans 3 semaines chez les démocrates.
Oui, donc les primaires présidentielles, c'est vrai cette année, c'était vrai il y a 4 ans, et c'est vrai dans les deux partis. Évidemment, cette année, on a un président sortant républicain, on n'aura pas de primaire républicaine, mais les deux partis opèrent essentiellement de la même façon. C'est-à-dire qu'on n'a pas une sélection nationale instantanée où là, les 50 États votent en même temps et on sait qui est le candidat. C'est pas comme un congrès, disons, de parti politique ici. Les conservateurs vont se choisir un chef, disons, en juin, tout le monde vote en même temps, c'est réglé. Aux États-Unis, le processus s'échelonne sur plusieurs mois. Donc, ça commence en 2020, là, en février, début février. En théorie, ça va aller jusqu'au mois de juin. Et le candidat ou la candidate va être investi formellement par le Parti démocrate à la Convention nationale du Parti à l'été. Donc, c'est très, très long. C'est la moitié d'une année carrément qu'on va mettre là-dessus.
Et le premier test dans 3 semaines, c'est en Iowa.
C'est en Iowa. Donc, on a un premier État qui vote. Historiquement, c'est l'Iowa. Un deuxième État qui suit après ça la semaine suivante. Ça aussi, c'est la tradition qu'il veut, qui est le New Hampshire. Et après ça, là, on a une cascade, ça déballe.
Et là, évidemment, les candidats qui vont, qui sont plus juste dans des, les candidats qui vont pas juste recevoir des sondages, vont recevoir des vrais résultats.
Mm-hmm,
donc, par État, là, si tu reçois 3, 4, 5 % du vote, ben, tu dis, OK, je vais débarquer.
Et c'est là que ça fait un espèce d'effet entonnoir. Donc, par exemple, on se parlait de la campagne de 2016 tantôt entre Mme Clinton et M. Sanders. Ben, ça, on remontait 8 ans avant ça, la campagne historique qu'il y avait eu entre Mme Clinton et M. Obama, qui s'était échelonnée sur plusieurs mois. Ben, elle avait fini en duel entre Clinton et Obama, mais elle avait commencé avec une dizaine de candidats. C'est juste qu'après l'Iowa, après le New Hampshire, ben, les candidats justement qui étaient à 0, 2, 3 % ils sortaient assez vite. Et pourquoi est-ce qu'ils sortent vite? Ben, ce n'est pas juste parce qu'ils n'ont pas de chance de gagner, c'est parce qu'ils n'ont plus d'argent et ça coûte excessivement cher se déplacer d'un océan à l'autre et faire campagne dans les 50 États sur 6 mois. Là.
As-tu vu ce que Michael Bloomberg a promis Michael Bloomberg qui a promis de laisser son infrastructure de parti à quiconque va remporter l'investiture, c'est pas lui.
Oui.
Ce qui inclut 500 travailleurs.
T'as absolument raison. En fait, c'est même plus que ça. Il viserait le cap des 1000 travailleurs. On se parle de Michael Bloomberg, peut-être une minute finir là-dessus. Parmi les candidats qui ne seront pas sur scène ce soir, il y a M. Bloomberg, l'ex-maire de New York. Mais c'est par choix. Il ne veut même pas se qualifier pour les débats présidentiels. Il saute les premiers rendez-vous en Iowa ou New Hampshire. Lui, il dit, je vous donne rendez-vous dans les plus gros États qui vont voter à partir du mois de mars, incluant la Californie.
Donc, on peut penser qu'il va inonder ces États-là de publicité, notamment télévisée.
C'est déjà fait.
C'est un homme extrêmement riche et il pense pouvoir s'imposer aussi. Pas juste par ses idées et son bilan de maire de New York, mais aussi par son budget. Merci, merci beaucoup, Raphaël. On se retrouve demain.
Et bonne fête! Je te le dis encore, bonne fête!
Merci. Luc Ferrandez s'en vient.